France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron plaide la cause de l'Ukraine à Washington. Le chef de l'État tente de dissuader Donald Trump de négocier la paix seul avec Vladimir Poutine, analyse de Claude Guibal. Le président français qui plaide pour une défense européenne forte peut compter sur le soutien du futur chancelier allemand. Notre correspondant à Berlin, Sébastien Baer, nous rendra compte des déclarations de Friedrich Merz, sorti vainqueur des élections législatives. Nous irons à Vannes, où s'est ouvert le procès de l'ancien chirurgien Joël Lescouarnec, accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 patients. Il reconnaît avoir commis des actes odieux, nous dira Florence Turme. Enfin, Antoine Marette nous emmènera au salon de l'agriculture, où le président du RN, Jordan Bardella, affiche sa proximité avec le monde agricole. 3 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution réaffirmant son soutien à l'Ukraine et à son intégrité territoriale. Le texte préparé par l'Ukraine et ses alliés européens a recueilli 93 voix pour, 18 contre, dont les États-Unis, et 65 abstentions. Ce matin, 13 dirigeants occidentaux se sont retrouvés à Kiev pour redire leur soutien à l'Ukraine. L'Union européenne a d'ailleurs annoncé une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros et Emmanuel Macron se trouve en ce moment même avec le président américain à la Maison Blanche. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Vous êtes à Washington. Les deux dirigeants ont participé à une réunion du G7 en visioconférence avant de se retrouver en tête-à-tête pour des entretiens bilatéraux. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui se rendra lui jeudi à Washington, espèrent convaincre Donald Trump d'impliquer l'Europe dans les négociations et de discuter de garanties sécuritaires pour l'Ukraine, Claude.
Oui, et vous savez, imprévisible, c'est le mot qu'on adopte le plus fréquemment là dans la diplomatie française pour qualifier Donald Trump. Et dans cette visite d'Emmanuel Macron, c'est évidemment celui qui ressort quand on s'interroge sur les chances de succès de cet entretien destiné à amadouer, hein, en fait, le président américain. Emmanuel Macron veut essayer de convaincre Donald Trump qu'il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de s'aligner sur Vladimir Poutine, mais bien de réintégrer l'Europe dans l'optique d'un cessez-le-feu en Ukraine, de remettre en quelque sorte l'Europe dans la boucle de la relation transatlantique. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a vu une première fois Donald Trump il y a 2 heures pour assister ensemble à une visioconférence donc du G7. Et c'est au cours du déjeuner de travail qui va pas tarder à commencer qu'il va essayer d'obtenir son attention. Alors non avec des arguments liés au droit international ou au respect des valeurs démocratiques, mais en lui présentant des propositions d'action concrètes pour garantir une paix durable en Ukraine et à des conditions acceptables pour les Ukrainiens. Emmanuel Macron, qui a rencontrer la quasi-totalité de ses homologues européens, veut se faire le messager de leurs propositions et notamment quant au déploiement de cette force militaire conjointe pensée avec la Grande-Bretagne dans le cadre d'un cessez-le-feu.
Claude Guibal en direct de Washington. Alors que l'administration de Donald Trump se détourne de l'Europe, Emmanuel Macron peut compter sur un nouvel allié pour plaider avec lui en faveur d'une défense européenne forte. À l'issue des élections législatives anticipées en Allemagne, le conservateur Friedrich Merz devrait prochainement devenir chancelier. L'extrême droite, l'AfD, effectue une percée historique autour de 20%, mais CDU et CSU sont sortis en tête du scrutin et devraient s'entendre a priori avec les sociaux-démocrates. Bonsoir Sébastien Baer.
Aurélie, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant en Allemagne en direct de Berlin. Friedrich Merz, donc, dit partager le point de vue d'Emmanuel Macron sur la nécessité pour l'Europe de devenir indépendante en matière de défense.
Oui, une nouvelle fois, le leader des conservateurs effectivement s'exprime sur le sujet et se dépêche, en tout cas dit sa hâte à former une coalition. Alors ce ne sera pas avec l'AfD, l'extrême droite deuxième de ce scrutin, dont la chef Alice Weidel s'est pourtant dite prête à gouverner avec la CDU. Friedrich Merz a refusé cette main tendue. Non, il se tourne plutôt vers les sociaux-démocrates. Merz se donne 2 mois jusqu'à Pâques pour dépasser les divergences, notamment budgétaires, entre les deux parties, doter l'Allemagne d'un gouvernement efficace. Il ne veut pas perdre de temps pour relancer un pays qui fait face à des bouleversements majeurs, l'économie en panne, le risque aussi d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Le conservateur de 69 ans qui prend acte du changement d'orientation de la politique américaine.
Tous les signaux que nous recevons en provenance des États-Unis indiquent que l'intérêt pour l'Europe faiblit de manière significative. La volonté de s'engager en Europe diminue. J'espère néanmoins que nous pourrons convaincre les Américains qu'il est dans notre intérêt mutuel de maintenir de bonnes relations transatlantiques. Mais comme toujours, il faut aussi se préparer au pire.
Vous l'entendez, Friedrich Merz, atlantiste pourtant convaincu, doute de la fiabilité de Donald Trump. Pour lui, l'Europe doit réorganiser sa défense. Il lance d'ailleurs l'idée d'une capacité de défense européenne autonome, une alternative à l'OTAN dans sa forme actuelle. C'est la priorité absolue, affirme le conservateur, qui sur ce point assure être en accord complet avec Emmanuel Macron, avec qui il s'est entretenu hier au téléphone.
Merci Sébastien Baer. Et Quentin Lafay et ses invités reviendront sur les conséquences des élections allemandes dans Question du soir à partir de 18h20. Revenons-en à l'Ukraine qui subit depuis maintenant 3 ans l'invasion à grande échelle menée par les forces russes. Les combats restent de haute intensité avec beaucoup de pertes humaines. Éric Bégala a rencontré un jeune vétéran en première ligne depuis le début. Il avait 18 ans lorsqu'il est entré dans le conflit.
Grand, sec, les yeux gris-bleu et la longue chevelure blonde, la coupe Osedelets, des Cosaques Zaporog, Vadim n'a que 21 ans, mais il est déjà vieux de 3 ans de guerre. Il s'est engagé le 24 février 2022.
Je venais de fêter mes 18 ans. Les premiers mois, je n'étais même pas officiellement dans l'armée. J'étais sur un checkpoint à la sortie de Kiev avec une arme anti-char. En attendant que les chars arrivent.
Les chars russes n'arriveront pas jusqu'à Kiev. Son baptême du feu, c'est dans le Donbass. Ce que Vadim va le recevoir au sein de la célèbre 93e brigade mécanisée.
Première expérience du feu, c'était dans cette partie la plus dure du front, à Barmout. J'y ai passé près d'un an, blessé 2 fois, légèrement.
En charge d'un mortier léger, Vadim va tuer ses premiers ennemis à Barmout.
Selon les reconnaissances aériennes, en 3 mois, on a dû tuer autour de 100 Russes avec notre mortier. On avait beaucoup d'obus.
Soldat aujourd'hui bien aguerri, Vadim Adamov ne fait pas l'erreur de sous-estimer son adversaire.
L'armée russe est bonne. Ils ne se soucient pas de leurs soldats, mais de l'expérience qu'ils engrangent. Ils ont appris à se battre. La prochaine fois que la Russie frappera, nous n'aurons pas autant de chances.
Vadim repart en première ligne dans les prochains jours et toutes ces histoires de négociations de paix ou de cessez-le-feu, il n'y croit pas vraiment.
La Russie va être encouragée à poursuivre la guerre. Elle ne peut plus exister sans la guerre. Toute son économie est sur des rails militaires. Faites-moi confiance. Ils ne peuvent exister sans la guerre et l'Europe, c'est la prochaine.
En vrai vieux soldat, Vadim Adamov estime que tout cessez-le-feu ne sera jamais qu'un entre-deux-guerres.
La guerre a obligé des millions d'Ukrainiens à fuir. Des réfugiés ont été accueillis en Pologne, en Allemagne, en République tchèque, en France aussi, où ils sont actuellement quelques 60 000. La mobilisation pour les accueillir a été forte au départ. C'est nettement moins le cas aujourd'hui et l'afflux de dons a également baissé. Mais certaines communes restent très engagées. C'est le cas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Écoutez le reportage de Marie-Aimée Copleutre.
Dans la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à côté d'une matrioshka bleue et blanche, le maire, François Blanchet, en réunion, prévoit d'envoyer 2 semi-remorques à Lviv d'ici 2 semaines.
On en fait partir un de Nantes, le deuxième de Chaland, pas très loin d'ici. Les choses qu'il y a dans les convois, etc. On aura essentiellement du matériel médical et des produits de première nécessité.
Organisé sous l'égide de l'association Vendée-Ukraine, son président, Alain Blanchet, continue de mobiliser les Vendéens 3 ans après.
On avait déjà dit à l'époque, quand il y aura beaucoup moins d'engouement, nous on sera encore là pour aider. On savait qu'il fallait tenir dans la durée, parce que eux ils ont besoin de se sentir soutenus, et sachant pas vraiment comment eux vont s'en sortir, en tout cas ils sachent que nous on est là.
Youri, ukrainien, participe également à l'opération. Exempté de service militaire, il a fui l'Ukraine avec sa femme et ses 2 enfants cet été. Pour lui, ce matériel est essentiel car même si la guerre est à 3000 km, elle n'est jamais absente. Sur une application de son téléphone, Youri regarde à tout moment si ses parents et ses frères et sœurs restés là-bas sont en sécurité.
L'alarme commence. Donc quand tu dors la nuit et que ça commence, tu penses directement à tes parents, s'ils sont en sécurité ou non. Donc on a essayé de sortir de la guerre, mais la guerre reste toujours avec nous.
Comme beaucoup d'Ukrainiens, Youri espère évidemment la fin du conflit, mais son souhait maintenant que ses enfants de 6 et 17 ans poursuivent leurs études en France.
Marie-Aimée Copleutre. Alors que les relations entre Moscou et Paris sont toujours très tendues, un tribunal moscovite a maintenu en appel la condamnation à 3 ans de prison du Français Laurent Vinatier. Laurent Vinatier travaillait pour une ONG suisse qui faisait de la diplomatie parallèle. Il a été condamné une première fois en octobre dernier pour ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger. Ce spécialiste de la Russie espérait une certaine clémence de la justice russe qui n'est finalement jamais venue, Sylvain Tronchet.
Jusqu'au bout, Laurent Vinatier semble avoir espéré que sa peine soit atténuée. Ses avocats avaient demandé Une amende ou une réduction de peine ou à minima son transfert vers une colonie pénitentiaire moins sévère pour purger sa peine. Mais la justice russe s'est montrée inflexible. Tout juste lui a-t-elle accordé une peine des deux tiers du maximum encouru et encore parce qu'elle était obligée de le faire vu que le Français avait décidé de plaider coupable, alors même qu'il avait dit qu'il ne savait pas qu'il devait se déclarer comme agent de l'étranger. Une thèse tout à fait plausible, aucun étranger ne s'était retrouvé dans son cas avant lui. Laurent Vinatier a eu beau dire qu'il aimait la Russie, un pays qu'il connaît parfaitement, dont il parle la langue, rien ne semblait donc pouvoir infléchir la machine judiciaire russe dans le contexte actuel de grandes tensions entre la France et la Russie. Laurent Vinatier va donc quitter Moscou pour une colonie pénitentiaire quelque part en Russie. Comme tous les détenus occidentaux dans le pays, son seul espoir de libération anticipée réside maintenant dans un éventuel échange de prisonniers.
Sylvain Tronchet à Moscou pour France Culture. Joël Le Skouarnec reconnaît une très grande majorité des faits dont il est accusé. Le procès de l'ex-chirurgien s'est ouvert à Vannes devant la cour criminelle du Morbihan. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 patients, la plupart mineurs au moment des faits. Des faits commis dans les hôpitaux où le médecin exerçait et qu'il a consignés dans des journaux intimes. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Vous suivez l'audience qui a débuté vers 13h. Joël Le Skouarnec a fait sa première déclaration, Florence.
Oui, une première audience où Joël Le Skouarnec, 74 ans, lunettes, front ridé, crâne dégarni et couronne de cheveux blancs, a commencé par décliner son identité au milieu d'une salle remplie d'avocats. Les parties civiles qu'il représente suivent les débats, elles sont une centaine dans l'amphithéâtre tout proche, et très vite la présidente de la cour criminelle s'adresse à l'homme seul dans le box. Vous n'êtes ni un objet de curiosité, ni un sujet d'étude, mais un accusé auquel la législation française accorde un certain nombre de droits. Le droit, premier rempart de l'arbitraire, ajoute Aude Burezi, qui entame ensuite le résumé des faits reprochés à l'accusé, égrène la liste interminable des victimes, prénom et nom de chacun. L'ancien chirurgien les avait consignés dans les carnets informatiques dont la découverte en 2017 a permis aux gendarmes de remonter jusqu'à chacun des jeunes enfants agressés ou violés. Monsieur Le Skouarnec, levez-vous, reprend la magistrate. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? L'accusé acquiesce. J'ai commis des actes odieux alors que la plupart n'étaient que des enfants. Je comprends et je compatis à la souffrance. Chaque mot visiblement pesé, prononcé d'une voix monocorde, traînante et fatiguée. J'ai parfaitement conscience que ces blessures sont ineffaçables, irréparables. Je ne peux pas revenir en arrière. Je dois assumer, conclut-il, la responsabilité de mes actes et des conséquences qu'ils auront sans doute jusqu'à la fin de leur vie.
Florence Turme avec Florent Layani pour les moyens techniques. 299 victimes ont été recensées par les gendarmes qui ont mené l'enquête. Parmi elles, un jeune garçon, Mathis, mort ensuite d'une overdose considérée comme un acte suicidaire. Et Florence a rencontré ses grands-parents, Roland et Maurice Vinet, chez eux dans la Vienne, autour de leur album photo.
Voilà, à l'âge de... avant l'événement, avant qu'il soit agressé. Là, c'est une des dernières photos.
Voilà, c'était un petit garçon très, très souriant.
C'est ces deux photos qu'on va mettre avec nous, au procès. Comme on avait promis de poursuivre son combat, bah, on est là. Et on ira au bout. Hein. C'était un petit garçon très affectueux. Nous étions très, très liés, tous les deux. L'hospitalisation, il se plaignait depuis le début d'après-midi de mal au ventre. Les parents pensant que c'était l'appendicite, puisqu'il n'avait jamais eu le père et moi-même qui avons accompagné Mathis à l'hôpital de Quimperlé. Le docteur qui nous a reçus présentait bien, nous a mis en confiance, a demandé à ce qu'il reste hospitalisé pour la nuit, en surveillance.
Ce docteur, c'était...
Non, je ne peux pas prononcer son nom.
Vous l'appelez comment ?
Le furoncle, parce qu'il a contaminé tout le monde.
Quand il est rentré dans l'adolescence, il y avait ce mal-être. On s'en rendait compte qu'il y avait un mal-être. Mais quoi dire ? Quoi penser ? On ne pouvait pas deviner quand même qu'il avait été à l'hôpital et qu'il avait subi tout ça. On ne peut pas s'imaginer qu'on puisse faire ça à un enfant.
C'était une descente aux enfers directement. Oui, oui. Il était dans un malaise, il ne pouvait plus surmonter. Donc il s'est laissé glisser, puis il est parti. Quoi.
C'est le ciel qui lui est tombé sur la tête quand on lui a annoncé ce qu'il avait subi dans ses fameux carnets noirs, que le pervers avait écrit. Il faut vraiment être pervers pour écrire toutes ces choses. Ça l'a tué, quoi. Le Skouarnec, moi je dis son nom, Le Skouarnec l'a tué. même s'il a, il lui a pas mis un revolver sur la tempe. Ou... Non, il l'a tué.
Vous appréhendez de le voir ?
Ah non ! Ah non ! Et j'ai envie de lui dire qu'il a tué mon petit-fils.
Témoignage donc de Roland Emory Vinet, grand-parent d'une des victimes, au micro de Florence Turme. La polémique n'en finit pas. Je parle maintenant de l'affaire Bétarame et du silence de François Bayrou. Un ancien élève à l'institution Notre-Dame de Bétarame dans les années 80 a déposé une plainte vendredi dernier à la gendarmerie de Cap-Breton. Plainte contre François Bayrou et l'institution pour non-dénonciation de crimes et délits. Marion Aquilina, vous avez rencontré cet homme, Rodolphe, qui raconte une scène de violence à laquelle il a assisté en présence, dit-il, d'une fille de François Bayrou.
Rodolphe se souvient qu'il s'est retrouvé assis à côté de la fille de François Bayrou dans une salle d'études de Notre-Dame de Bétarame. Lui était en classe de terminale et elle était en première. Ils ont alors assisté à une scène de violence sur un élève.
Le pion a mis un vrai aller-retour fort, une grosse gifle à un élève. Tout le monde baisse les yeux, c'est ça la réaction. Et moi, je me suis retourné vers Hélène Bayrou et j'ai vu son regard de surprise et d'effroi de voir ça. À l'époque, qu'elle en ait parlé à ses parents. Ce serait dans la logique des choses.
C'était pendant l'année scolaire 1987-1988. À cette période, François Bayrou est député dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est aussi élu au Conseil Général et il est parent d'élèves. Il ne pouvait donc pas ne pas savoir pour les violences, estime Rodolphe, qui a porté plainte pour non-dénonciation de crime.
Il avait des fonctions, c'était à lui, à permettre peut-être que la libération déjà de la parole ait lieu, mais il n'a rien fait. C'est le sens de ma plainte. Quand on est responsable, à un moment, il faut assumer ses responsabilités. Il a fait un choix, il a fait le choix du pas de vague et sa carrière.
Rodolphe doit être entendu prochainement par les enquêteurs. Quant à la fille du Premier ministre, elle n'a pas répondu à nos sollicitations.
Le Premier ministre François Bayrou a été interrogé sur ce point au Salon de l'Agriculture, mais n'a pas voulu répondre. Il était lui aussi au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, après une première visite hier. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, semble vouloir tisser sa toile dans le monde paysan, Antoine Marette.
Il semble loin, le temps où Jean-Marie Le Pen était accueilli au Salon de l'Agriculture par des huées et des crachats. Désormais, le leader du parti d'extrême droite déambule sans problème entre les stands, déguste comme il se doit les produits locaux et accepte avec gourmandise les demandes de selfies et les dédicaces de son livre. Ici, Jordan Bardella est en terrain conquis.
Il y a beaucoup d'agriculteurs qui, manifestement, ont été convaincus par le patriotisme économique et le projet de souveraineté alimentaire que porte le Rassemblement national, puisque beaucoup d'entre eux ont voté pour le Rassemblement national aux élections européennes, donc je leur dis qu'on va continuer le combat.
Jordan Bardella fustige les accords de libre-échange et égratigne ses cibles favorites, Emmanuel Macron et l'Union européenne.
Aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises, à la fois par M. Macron, mais aussi par les dirigeants de l'Union européenne, vise à transformer la France en une économie de consommation dépendante de produits importés et du commerce mondial. Or, je pense qu'être un pays souverain, c'est être un pays libre.
Des mots qui séduisent une partie du monde agricole, et notamment la coordination rurale, dans le stand de laquelle Jordan Bardella reste une bonne demi-heure. Ce syndicat se rapproche du Rassemblement national depuis quelques années, même si sa présidente, Véronique Le Floch, revendique son apolitisme. Son discours est assez proche de celui du RN.
On arrive enfin à percer, on arrive à faire comprendre qu'il faut cette agriculture familiale, libre, indépendante, plutôt que de continuer à être asservie par l'Europe, par l'agro-industrie et demain par la finance.
Le monde agricole n'échappe pas à la vague RN. Selon un sondage du Cevipof publié avant les dernières européennes, 26% des agriculteurs étaient prêts à voter pour la liste de Jordan Bardella, contre seulement 14% pour celle de LR. Dans bon nombre de territoires ruraux, l'extrême droite a remplacé la droite.
Antoine Marette au Salon de l'Agriculture. Quelques notes de musique avant de refermer ce journal pour rendre hommage à l'une des grandes voix soul américaines. Roberta Flack est morte à 88 ans. Elle était atteinte de la maladie de Charcot. La chanteuse afro-américaine a eu une grande influence sur la soul qu'elle a mêlée au jazz et au folk. Son premier succès, The First Time Ever I Saw Your Face, a remporté le Grammy Award de la chanson de l'année en 1973. Et en 1974, c'était Killing Me Softly With His Song, également interprété par Roberta Flack. Roberta Flack, connue aussi pour s'être engagée dans le mouvement des droits civiques américains. Ce hit a connu à nouveau le succès dans les années 90 quand il a été repris par les Fugees et sa chanteuse Lauryn Hill. La météo, demain, il faudra compter avec un temps perturbé. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné. L'après-midi, dans l'ouest, des éclaircies alterneront avec les averses. Mais sur l'est et les Pyrénées, les précipitations resteront fréquentes. Les températures minimales iront de 5 à 10 degrés, les maximales de 9 à 13 sur une grande moitié nord, de 13 à 16 du sud-ouest à la Méditerranée.